franceinter.fr.
Il est 8h32. Voici la revue de presse. Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour Patrick.
On commence ce matin par un fait. Nous sommes vendredi.
Et c'est une info, car figurez-vous que le jour de la semaine induit une adaptation de notre métabolisme et explique donc un comportement différent, voire la programmation des invités de cette matinale, Patrick. Et nos auditeurs vont enfin comprendre pourquoi on a reçu mardi, par exemple, le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, et pourquoi ce matin, eh bien, c'est Didier Deninx qui est avec nous.
Oui, c'est plutôt généralement un auteur, un acteur du monde de la culture.
Et ben, je vais vous expliquer pourquoi.
Dites-nous.
C'est Nicolas Santolaria qui, dans un papier assez drôle à retrouver sur le site du Monde, nous informe de cette nouvelle pathologie salariale, pas encore répertoriée par la médecine du travail, mais en tout cas indubitable, la vendredite. Explication. Le lundi, le salarié est encore jet-lagué par son week-end. Le mardi constitue le cœur productif de sa semaine. Il lance tous les chantiers, donc on avait Jean-Jacques Urvoas, je vous rappelle. Le mercredi, il souffle un peu. Le jeudi, il se rend compte que ce qu'il a lancé le mardi patine. Et il entre dans une phase de décélération progressive. Il arrive donc au vendredi. Et c'est là que son métabolisme anticipe le week-end avec 24 heures d'avance. Bref, il commence, vous commencez, paraît-il, à penser au tintement des glaçons annonçant l'imminence de l'apéro. Vous êtes un malade social épris de sa pathologie. Un Robinson qui a enfin trouvé sa raison d'être vendredi, s'amuse le journaliste. Bon, comme nous on est sérieux à France Inter, on ne pense pas aux glaçons, mais on a donc envie de culture, d'histoire, de littérature. Et c'est donc pourquoi vous êtes là avec nous ce matin, monsieur Deninx.
On est vendredi, ça n'empêche pas de faire une revue de presse.
Non, de parler de l'actualité quand même, de s'interroger notamment sur le crash du vol d'Égyptair hier. Ce matin encore, que des questions, et notamment celle-ci. S'agit-il d'un accident ou d'un attentat? Vos quotidiens restent prudents, même si quelques-uns glosent déjà sur toutes les bonnes raisons de croire à la piste terroriste. À la une de Ouest-France, par exemple, Laurent Marchand explique que si l'hypothèse de l'attentat doit se concrétiser, le crash pourrait bien constituer un coup double pour les djihadistes, frapper la France et l'Égypte d'un seul coup. Si l'hypothèse était confirmée, renchérit l'éditorialiste du Figaro Yves Tréhard, le gouvernement ne pourra pas dire qu'il n'était pas prévenu et du coup, Yves Tréhard en profite pour lui demander de renoncer aux fan zones prévues pour l'euro, menace trop forte, dit-il. À l'appui, le Figaro rappelle que le numéro 1 de la sécurité intérieure, le patron de la DGSI, a bien souligné il y a 10 jours que la France était la cible numéro 1 des terroristes. Sauf que parfois, il faut se méfier des premières versions données aux événements. C'est ce que nous révèle Libération ce matin en revenant sur le dernier incident aérien touchant déjà un vol égyptaire. Le 29 mars dernier, un Égyptien avait détourné un avion et ses passagers, le forçant à atterrir à Chypre. Le pirate de l'air s'était finalement rendu aux autorités. Alors qu'en avait-on retenu? Qu'il s'agissait d'un amoureux transi qui voulait revoir son ex-femme. Romantique, rassurant, mais faux, nous dit ce matin Libération. Maria Malagardis, l'envoyée spéciale de Libération à Chypre, le pseudo-pirate amoureux, opposant notoire au régime du maréchal Al-Sissi, affirme aujourd'hui avoir été emprisonné au Caire dans une cellule voisine d'un jeune Italien retrouvé mort au Caire début février et dont l'autopsie a montré qu'il avait été torturé et battu à mort. Par qui? Eh bien, l'opposition dénonce des méthodes caractéristiques de la police politique, ce que démentent les autorités égyptiennes. Alors en attendant, ce mort empoisonne les relations entre l'Égypte et l'Italie. Le pirate de l'air souhaitait-il effectivement attirer l'attention du monde entier sur les violations des droits de l'homme en Égypte en détournant cet avion? Eh bien, c'est ce que plaide ce matin son avocat. Et l'Égypte dépose ce matin officiellement une demande d'extradition de cet homme, aujourd'hui toujours réfugié à Nicosie.
Menace terroriste, montée de l'islamisme en France, nouvelle illustration ce matin dans la presse.
Avec cette une du Figaro magazine, Molenbeek sur Seine, à Saint-Denis, l'islamisme au quotidien. C'est un reportage de Nadjet Cherigui avec des photos d'Hervé Lequeux, photos de femmes voilées de la tête aux pieds dans les rues de Saint-Denis, de mosquées combles, de prières de rue. La journaliste raconte une ville qui semble, à la lire en tout cas, presque totalement tombée aux mains des plus radicaux. Nous sommes cernés par les intégristes, témoigne même le responsable de la mosquée située juste à côté de la basilique Saint-Denis. Le maire dit être démuni face à la radicalisation. Le préfet confirme le phénomène et parle de surveillance d'individus, mais sans vouloir en dire plus. Les musulmans modérés se sentent totalement débordés par ces jeunes, plus du tout barbus, élégants, courtois, mais qui affirment tranquillement qu'un homme ne doit pas serrer la main d'une femme. Des femmes qui ont soit choisi le voile, quitte à devoir renoncer à leur rêve d'enseignement, soit qui se disent désarmées face à la stratégie des intégristes. Elles racontent qu'ils arrivent à terroriser toutes celles qui, non voilées, non musulmanes, eh bien tout simplement, ils essaient de leur interdire d'occuper l'espace, bloquent les trottoirs, les empêchent de passer, raconte l'une d'elles. C'est un reportage, à vrai dire, assez terrifiant. Saint-Denis, vous connaissez bien cette ville, Didier Denenx. Est-ce que c'est comme ça que vous la vivez aujourd'hui, cette ville ?
Il y a des éléments de ce type. Par exemple, j'ai écrit un article il y a un mois et demi dans Le Monde, où je disais, par exemple, j'allais le matin chercher ma baguette à Aubervilliers, et il y avait trois imams qui étaient là, en train de prendre leur petit déjeuner dans la boulangerie, et qui faisaient pression et qui accueillaient les fidèles. Il y a véritablement une partie comme ça de la communauté musulmane qui fait un travail quotidien et qui irrigue un petit peu les villes. Donc il y a cette réalité qui a été énormément niée, évitée du regard. Les cafés, il y a des associations de femmes qui se battent pour venir occuper des places en terrasse où on a des cafés.
Des femmes qui par ailleurs témoignent dans l'Obs également cette semaine pour essayer de dire qu'elles veulent récupérer cet espace public.
Il y a cette réalité et en même temps c'est tissé par toute une série de choses, c'est-à-dire un travail associatif absolument extraordinaire qui est fait et avec des centaines de personnes qui se battent pour toutes les pluralités. Donc on a cette double chose. Et à Saint-Denis, il y a l'université et il y a une influence assez importante d'un parti que je considère comme un parti raciste qui s'appelle le Parti des Indigènes de la République et qui a une très très forte influence même sur des élus dans ces banlieues. Donc on s'affronte à un problème extrêmement, extrêmement complexe.
On s'affronte, dites-vous, Didier Denenx, ça veut dire qu'à vos yeux, c'est un combat qui doit être mené à la fois sur le plan idéologique et pratique sur le terrain dans les banlieues.
Et une partie des élus ont complètement cédé, ont baissé les bras et ont passé des alliances clientélistes.
Vous donniez des exemples très précis et je me souviens qu'on avait interrogé Pierre Laurent un matin là-dessus sur les compromissions que vous dénonciez entre la municipalité Front de Gauche et ces associations islamistes.
Complètement. Il y a toute une série de choses précise. Mais en même temps, il y a des erreurs qui sont commises. Par exemple, le maire de Saint-Denis, il a fait un article dans Le Monde il y a 15 jours, il écrit « Les habitants du centre-ville n'ont pas cédé à la panique malgré un déploiement colossal des forces de l'ordre un matin de novembre. » C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'assaut contre les djihadistes, d'un seul coup, ils remercient les habitants de ne pas avoir cédé à la panique de la vue des forces de l'ordre. Il y a des discours qui s'entremêlent comme ça et ou qui donnent des gages à nos pires ennemis quand on prononce ce genre de paroles. Et donc il y a ça, c'est-à-dire qu'on est avec des gens qui sont démunis, qui sont devant un problème dont ils n'ont pas l'analyse ni les débuts de solution. Donc et personne ne les rapporte. Et donc, les gens godillent, quoi. Ils font un petit peu ce qu'ils peuvent, comme ça, au jour le jour. Et la situation s'aggrave de semaine en semaine.
On reviendra sur le sujet si nos auditeurs le souhaitent avec vous, Didier Denenx. Vendredi, Hélène Jouan, vous l'avez dit, comme nous sommes vendredi, vous avez choisi de finir avec des articles consacrés à la culture. Ce matin.
Oui, avec quelques articles éclectiques, passionnants. D'abord le témoignage de l'écrivain napolitain Henri De Luca dans Le Point, qui a quelque chose à voir avec ce que nous vivons depuis quelques semaines en France. Celui qui a été engagé dans les combats d'extrême-gauche en Italie dans les années 70, ne reniant rien son combat, il se souvient de cette fièvre politique qui s'était emparée de l'Italie. Non, ce n'était pas des années de plomb, dit-il, mais des années de cuivre, ce métal conducteur qui nous mettait tous en contact les uns avec les autres. Aujourd'hui, il regrette que les jeunes soient si peu nombreux, dit-il, à s'engager. Ils acceptent la version du monde des adultes. La jeunesse est faible. Sans doute, les jeunes français de Nuit Debout tiendront-ils à démentir cette version un petit peu nostalgique. Avec une enquête aussi sur le théâtre privé, revivifié par l'engagement des patrons, c'est-à-dire dans les éco-weekends. Jacques-Antoine Grandjean de Vente Privée, Vincent Bolloré pour Vivendi ou encore Marc Ladret de La Charrière rachètent à tour de bras des petits théâtres privés pour en faire quoi ? Eh bien, faire rayonner leur marque, bien sûr, placer les talents Vivendi, renchérit Bolloré, peut-être en tout cas les débuts d'un Broadway à la française qui pourrait effectivement revivifier un secteur aujourd'hui touché par la crise. Et puis, on termine avec une critique d'Expo Waouh. Oui, waouh, c'est tout ce que j'ai à en dire, parce que j'ai pas réussi à trouver un qualificatif autre pour parler de ce texte de Claire Dolec dans le magazine Réponse Photo, une critique consacrée au photographe Araki, qui expose actuellement au musée Guimet à Paris. Des clichés de femmes nues, des femmes ligotées, au sexe visible, torride, voire dérangeant pour certains. Mais Claire Dolec arrive à lier la géographie de l'organe génital féminin et la libération que cela représente de le donner à voir. Jusque-là, écrit-elle, la différence entre la génitalité visible extérieure des garçons et celle cachée intérieure des filles modeler le monde, et bien grâce à Araki qui met en scène ce sexe ouvert, ce tabou est tombé. Moi je vous le dis, on sent moins bête après avoir lu cette critique. C'est fait pour ça dans une critique.
Oui, absolument. Waouh. Merci. Merci à vous Hélène Jouan pour la rude presse.